19h, 20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Conversation chez La Pérouse. C'est une rentrée très prestigieuse puisque nous avons l'honneur de recevoir Yasmina Reza ce soir, qui est un des écrivains français les plus connus dans le monde et qui est très rare dans les médias. Elle a horreur de ça. Elle est d'ailleurs, m'a-t-elle dit, très terrorisée, donc je vais essayer de la rassurer, de la mettre à l'aise. Yasmina Reza, vous êtes très en forme, car votre pièce de théâtre, James Brown mettait des bigoudis chez Flammarion, et qui sera au Théâtre de la Colline à partir du 19 septembre, est une pièce extrêmement drôle, extrêmement légère, mais sur un sujet profond, et c'est comme vous le faites d'habitude. Je précise que là, vous n'avez pas seulement écrit le texte, mais vous mettez en scène la pièce, donc vous êtes en plein dans les affres des répétitions en ce moment. Alors, merci d'être venu. Comment ça se passe, les répétitions ?
Les répétitions, c'est à la fois extrêmement excitant, très... On voit prendre forme, c'est quelque chose que j'aime énormément parce que c'est une nouvelle écriture. C'est pas comme, j'ai pas d'idées préconçues quand je mets en scène mes pièces. Je vois ce que les acteurs, je vois la matière des acteurs et je fabrique en fonction de ce qui m'apporte.
Oui.
Mais c'est aussi très angoissant évidemment parce que tant qu'on n'a pas vu le spectacle en entier, on ne voit que des fragments, on ne peut pas savoir si le résultat sera à la hauteur, j'espère que oui.
Quand vous publiez auparavant, puisque le livre sort aujourd'hui en librairie, quand vous publiez le texte auparavant, avant que la pièce ne commence, est-ce qu'il va y avoir une différence entre le texte et ce qui sera joué ?
Vous voulez dire du point de vue du texte lui-même ?
Oui, est-ce que les acteurs vont modifier des choses ?
Absolument pas, jamais. J'écris avec énormément de précision et je pense que cette rigueur-là de suivre au mot près est indispensable.
D'accord. Donc, c'est d'ailleurs au Théâtre National de la Colline, qui est un peu comme un équivalent de la Comédie française, hein, c'est très sérieux. Et il n'y a d'ailleurs que des auteurs vivants. Et vous êtes vivante.
Oui, bah, j'espère.
Voilà. Donc c'est bien.
Encore.
Non, mais c'est vrai que c'est la Comédie française, souvent le public, il arrive avec le livre pour vérifier que les acteurs disent bien le texte. Donc là, les gens pourront le faire. Il suffit d'aller acheter le.
Ce serait dommage.
Voilà, et vous aurez des gens peut-être qui vont vérifier si les acteurs jouent bien le texte. En tout cas, c'est l'histoire de Jacob Hüttner, un jeune homme qui se prend pour Céline Dion. On le voyait déjà dans Heureux les Heureux en 2013 avec ses parents. Et là encore, il y a ses parents qui viennent lui rendre visite dans une maison de repos où il séjourne. Il est vraiment persuadé d'être Céline Dion et il prend l'accent québécois. Il s'habille avec des robes qui ressemblent à celles de Céline. Et il s'est fait un ami, Philippe, un blanc qui se prend pour un noir. Alors c'est donc une pièce sur ces êtres qui refusent le destin qui leur a été assigné à la naissance.
Oui, alors le personnage existait déjà dans un roman précédent.
Voilà.
Le personnage et ses parents, parce que j'aimais aussi beaucoup ses parents, et existait dans Heureux les Heureux.
Heureux les Heureux,
et
voilà.
C'était un seul chapitre, et je m'étais toujours dit c'est dommage de ne pas avoir donné plus de matière, plus de corps. Non pas que le chapitre n'était pas autosuffisant, mais j'avais envie d'être encore moi avec eux. Puis je trouvais pas
c'est
la
ce qu'on
forme.
Appelle un spin-off.
Oui,
vous savez ça, quand on prend un personnage secondaire et on en fait le personnage principal d'une œuvre suivante.
Oui, exactement. D'ailleurs, il y en a de très, très réussis. Mais en fait, j'avais l'idée de faire un spin-off, mais rien ne... Je ne pensais pas spécialement au théâtre. Je me disais un film ou presque un roman autour d'eux. Et puis, ça ne venait pas. Et puis, étant donné l'ambiance générale, identitaire, ces questions sont revenues au premier plan, et tout à coup, je me suis dit, mais voilà, c'est l'occasion de faire une fantaisie avec
ce sujet qui est très d'actualité.
Ouais. Qui est d'actualité, mais c'est, évidemment, je n'ai pas du tout fait une pièce d'actualité, j'ai fait toute autre chose.
James Brown mettait-il vraiment des bigoudis ?
Alors, c'est intéressant. Moi, j'ai toujours pensé qu'il en mettait, parce que on peut pas. Moi, je suis très grande spécialiste des cheveux. Oui. Et
il a les cheveux. Il lissait ses cheveux.
Alors, il les lissait, mais le gonflant ne peut s'obtenir qu'avec des bigoudis. C'est-à-dire qu'il a fallu faire chauffer des boucles. Donc, j'ai toujours pensé qu'il avait des bigoudis. Et puis, après avoir écrit la pièce et même avoir eu le titre, je suis tombée sur une photo de Diane Arbus où il est chez lui et où le sous-titre, c'est James Bond qui se fait poser des bigoudis. Donc, ouais. Mais j'en avais pas de doute.
Donc il y a quand même une affirmation réelle dans cette pièce. Alors, je vous ai présenté au début en disant que vous étiez un des écrivains français les plus célèbres dans le monde, mais préférez-vous qu'on dise écrivain ou écrivaine ?
Définitivement écrivain. Pour moi, c'est la fonction qui compte. Je suis très malheureuse, moi, avec ces auteurs, autrices, écrivaines. On a l'impression qu'avant, on faisait partie d'un tout générique et que maintenant, on est la moitié d'un tout. Je comprends pas très bien l'avantage...
De féminiser les mots. Oui. Écoutons quelque chose.
Nothing without a woman or a girl.
Alors James Brown, il dit qu'on vit dans un monde d'hommes, mais que nous ne serions rien sans une femme ou une fille. Voilà, c'était ce que je voulais vous envoyer comme message pour pour rebondir sur votre refus de la féminisation du mot écrivain. Vous aviez déjà mis en scène Le Dieu du carnage en 2008 avec Isabelle Huppert au Théâtre Antoine. Alors pourquoi un auteur choisit-il de mettre en scène lui-même son texte ? Est-ce que vous aviez eu auparavant le sentiment d'être trahi ?
Non, c'est pas du tout ça. J'ai la chance très grande que mes pièces soient montées à l'étranger, un peu partout. Donc je peux voir des mises en scène dans différentes langues, bien sûr, mais aussi dans différentes cultures, différentes adaptations, enfin pas d'adaptation de texte, mais adaptation culturelle. Donc avec des options complètement différentes. Et je me suis dit, mais au fond, pourquoi ne pas aussi donner ma propre version dans ma langue ? Et à partir du Dieu du carnage, j'ai toujours monté mes pièces ici. Comme ça, ça fait une version française qui est la mienne, mais...
Et c'est vous qui mettez en scène. Vous auriez pu demander à d'autres metteurs en scène de...
Oui, mais ce ne serait pas alors, ma vision des choses.
Donc vous êtes une contrôle fric.
Non, je ne crois pas du tout. Vraiment, par exemple, je ne pense pas que les acteurs vous diront que j'ai une idée préconçue. J'en ai pas.
Oui.
J'arrive avec un texte comme si je ne l'avais pas écrit, mais au moins je m'amuse une deuxième fois avec le texte. Parce que souvent, il faut bien le dire, en France... J'ai vu des mises en scène de mes pièces, même parfois très bonnes, mais en me disant « Ah, c'est dommage, j'aurais bien vu... »
Oui.
J'aurais bien aimé voir ça que je ne vois pas. Et bon, fais-le, puisque c'est ma formation, même.
Et c'est l'avantage d'être vivant. c'est ça. Alors, votre premier choix musical, Yasmina Reza, c'est Jean-Sébastien Bach. Partita pour clavier numéro 3, avec Piotr Anderszewski au piano, et c'était en 2001.
Thank you.
C'était donc Jean-Sébastien Bach, la partita pour clavier numéro 3 avec Piotr Andershevsky au piano. Dans les indications scéniques de la pièce de théâtre qui est publiée chez Flammarion, James Brown mettait des bigoudis, il y a plusieurs fois pas de réalisme, aucun réalisme. Pourquoi ? Est-ce que c'est un sujet réel, mais vous voulez créer une distance ?
Je le mets à chaque fois. Mm-hmm. Dans toutes mes pièces, il y a écrit... pas de réalisme, pas de réalisme. Parce que c'est une question de style, je n'aime pas les décors réalistes. J'y suis très peu sensible, il n'y a pas de magie pour moi. Pour moi, le théâtre, c'est vraiment le lieu de la métamorphose, le lieu de l'imaginaire. Et on a le cinéma pour le réalisme. On a...
Mais là, ça se passe dans une maison de repos, donc un peu fantasmée, un peu imaginaire, avec un jardin. Et est-ce que c'est du théâtre absurde ? Je me demandais. Est-ce que c'est un peu comme un mélange, je dirais, de La Cage aux Folles et de Beckett, vous voyez ?
Oui, moi j'aime bien cette double comparaison. Elle me plaît bien. Je me pose pas trop de questions. Je me regarde pas. Je m'auto-analyse
pas. Oui, ça je sais. C'est pour ça que vous n'aimez pas les interviews.
Oui, c'est ça. Parce que je n'aime pas être le commentateur parasitaire de ce que je fais. Et surtout de donner des leçons en parallèle sur mon.
Non, mais c'est terrible. Est-ce que je vais donc vous torturer pendant une heure ?
Non, mais je parle volontiers quand même.
Non, mais bien sûr. Mais parce que. Le fils qui porte des robes de Céline Dion, qui parle en accent québécois, c'est à la fois désopilant et bouleversant. Surtout que ses parents lui rendent visite régulièrement et on sent que ses parents l'aiment profondément. Et donc, ils sont devant un enfant qui croit qu'il va chanter tous les soirs à Las Vegas, qui est dans un asile psychiatrique, suivi par un médecin. Et à la fois, ses parents le respectent, ils respectent son choix, son rêve, fou, un peu. Et puis, ils sont effrayés. Ils se demandent, qu'avons-nous fait ?
Alors, d'abord, c'est pas exactement un enfant. Enfin, c'est leur enfant, oui. Mais c'est un adulte, à ce moment-là.
Oui, bien sûr, c'est
et
leur fils.
Et quand ils le décrivent comme ayant mis des robes étant petit, mais là, il ne met plus de robes. Il se déguise pas. Il est profondément le personnage. Mais il est dit aussi, à un moment donné, par la psy qui parle aux parents, que il est dans la position d'un enfant qui joue dans sa chambre à être quelque chose. Il sait que la vraie existe. C'est très intéressant comme état de... Il n'est pas dans une folie schizophrénique de se prendre pour Céline comme on pouvait se prendre pour Napoléon. C'est autre chose. Il a modélisé la chanteuse. Il veut être cette chanteuse.
Oui, mais en fait, c'est aussi il y a quand même aussi une moquerie sur la médecine. La psy est un peu la plus dingue de la pièce, en fait.
Eh ben, c'est drôle parce que on m'a dit ça plusieurs fois et moi je trouve pas du tout. Elle est la détentrice d'un discours assez moderne.
Oui.
Que je me suis alors appliquée à rendre très très juste, très cohérent, avec lequel parfois je tombe complètement d'accord moi-même, et sur une forme de liberté...
De choisir son identité.
Oui, absolument. Et j'espère que quand on verra le spectacle, on n'aura pas l'impression que je m'en moque.
Donc c'est pas comme Molière qui se moquait des médecins avec leur jargon.
Pas du tout. Oui. Non, on n'est pas parce que quand Molière se moque des médecins de façon géniale, c'est déjà là à l'écriture cette moquerie. Enfin, le jargon est absolument satirique. Alors que là, franchement, je pense pas.
D'accord. Parce que alors, je cite ce que dit la psy à un moment. Elle dit. À propos donc de Jacob, mais aussi de Philippe, qui est donc l'un se prend pour Céline Dion, l'autre est blanc et se prend pour un noir. Alors je cite la psy, tous deux font fi des typologies à l'ancienne et aucun ne s'est laissé intimider par la biologie.
Oui.
C'est quand même comique, intimider par la biologie.
Oui, intimidé par... Mais c'est quand même aujourd'hui...
C'est une question sérieuse.
Voilà, c'est ça. Oui. C'est que les gens qui... Les trans, les gens qui décident de faire une transition de genre ou d'autre chose, se laissent pas intimider par la biologie. Donc, ce qui m'a intéressé beaucoup, moi, dans ce texte, c'est que les parents le mettent dans l'espoir qu'on leur rende Jacob, leur vrai Jacob d'origine, c'est un garçon normal, et la psy essaie juste d'harmoniser les patients, c'est-à-dire de les rendre heureux dans leur identité de choix.
Oui, et vous-même, si vous n'aimez pas les interviews, c'est parce que vous ne voulez pas choisir. Et oui. Je crois que vous avez raison, parce qu'un auteur n'a pas à choisir
bien
son
sûr.
Camp. Et c'est bien la proposition de la pièce. Je pense que quand on sort de cette pièce, on se dit,
Mais que pense Yasmina Reza au fond? Et puis, c'est à chacun de penser ce qu'il veut.
Ça m'amuse parce qu'il n'y a qu'un écrivain qui peut dire ça. Vous le dites parce que vous êtes vous-même écrivain. Et évidemment, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on presse les écrivains de choisir leur camp. C'est une absurdité puisqu'on met en branle des instances contradictoires. C'est ça qui est amusant. On ne va pas dire après, moi, je suis pour un tel personnage ou un autre.
Oui. Mais enfin, quand même, c'est quand même... Alors, le sujet est tellement explosif, tellement brûlant en ce moment que je suis obligé de vous embêter avec ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'excès de tolérance et de respect pour les choix de chacun conduit à la folie? Parce que il y a certaines scènes qui sont désopilantes aussi.
C'est dans la pièce, si vous voulez. Oui. Moi, je vais résister avec vous et avec tout le monde à la tentation de dire oui, ça conduit à la folie, etc. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est justement qu'on sorte de là, on est avec tous les repères brouillés.
Oui. C'est comme ce que dit Kundera. Il dit on n'est pas là pour avoir réponse à tout, mais question à tout.
On est là pour poser des questions.
Question à tout. J'adore
c'est
ça. Oui,
c'est super bon.
Oui. Je continue quand même de vous torturer.
Oui.
Pensez-vous qu'un homme a le droit de se prendre pour Céline Dion?
Bien sûr. Ah ben bien sûr.
Mais
si vous voyez ce qui me gêne, alors là je vais quand même prendre position sur quelque chose qui a rien à voir avec la pièce. Moi ça me gêne pas du tout un homme qui se prend pour Céline Dion ou qui décide de vivre en femme.
Si ça le rend heureux.
Oui, non, ce qui me gêne, c'est quand ça devient c'est la revendication. C'est quand ça devient hostile, quand ça devient totalitaire. Là, je suis plus embarrassée.
Oui, si quelqu'un dit tous les hommes devraient être Céline Dion, là, ça...
Voilà, c'est ça.
C'est facho.
Quand il y a un esprit totalitaire qui prend le pas.
Oui. Alors, vos pièces, c'est très intéressant. On va parler d'abord de théâtre et puis ensuite on parlera de vos romans. Hein. Mais finalement, vous partez toujours d'une situation un peu spectaculaire. Bon, par exemple, dans Art, en 1994, avec ce personnage qui a acheté un tableau tout blanc. Dans la pièce, il est dit « une merde à 200 000 francs ». Mais là aussi, vous ne vous moquiez pas de l'art contemporain, mais vous poussiez les personnages dans leur retranchement. Et c'est la même chose dans Carnage aussi, où il y avait deux élèves dans une classe qui s'étaient battus, et leurs parents, il y avait une sorte de déchaînement de haine des parents. Et donc, ce que vous aimez, c'est ça, c'est peut-être un dérèglement au départ, et puis voir jusqu'où ça vous amène.
C'est exactement ça, et j'aime beaucoup que vous citiez ces deux pièces, parce que j'apparente James Bond mettait des bigoudis à ces deux pièces-là. Non pas en thème, mais structurellement...
Oui, elles sont crescendo.
Oui, Et surtout, je pars de trois fois rien pour arriver à une situation inextricable.
Oui.
Et que de là où je pars, tout le monde peut le reconnaître, tout le monde peut l'avoir vécu. Mais moi, j'aime partir du très petit. C'est pas les grands thèmes. Enfin, c'est pas les grands thèmes qui m'intéressent en ce sens que je serais pas capable d'écrire directement, frontalement sur un grand thème.
Vous êtes trop modeste parce que en abordant cette situation un peu grotesque, en même temps vous affrontez un thème central de notre époque, quoi.
Ça a été un peu mon ambition et là encore je vous remercie du mot grotesque parce que grotesque je le reconnais plus que satire ou moquerie ou mais parce que le grotesque ça nous constitue, on est tellement souvent dans le grotesque.
Oui. Alors je vais pas dire la fin, mais il y a une fin très belle et très émouvante. Vous-même, vous êtes la fille d'un Russe iranien et d'une Hongroise. On peut dire, comme la psy de la pièce, que vous avez fait fi des typologies à l'ancienne. Et est-ce que cet arbre déraciné qu'on replante dans le jardin, est-ce que c'est vous? Ah oui, c'est une émission psychanalytique, je suis désolé.
Bah peut-être. Comment savoir là Je me suis pas. Mais j'aime beaucoup cet arbre. C'est vrai. Je m'y suis attachée personnellement.
C'est le symbole un peu.
Oui, bien sûr. Non, il est évidemment le symbole du déracinement. Ça, c'est évident. Et du replantage ailleurs.
Oui, il y a dans Nulle part en 2005. Vous avez écrit: je n'ai pas de racines. Aucun sol ne s'est fiché en moi. Je n'ai pas d'origine.
Oui, d'ailleurs, je pense qu'on va le mettre dans le programme, mais vous devriez...
Travailler pour vous,
oui. Mais je vous engage.
C'est ce que je suis en train de faire, là.
Oui, c'est vrai.
Je travaille pour vous. Et alors, ce Jacob, Est-ce qu'aussi, vous ne l'admirez pas, d'une certaine manière? Parce qu'il veut une vie exceptionnelle. Il ne veut pas avoir une vie normale, ennuyeuse, bourgeoise. Et la morale, peut-être s'il y en a une de cette pièce, c'est peut-être qu'on meurt tous. Alors autant avoir des rêves, même s'ils sont ridicules et débiles.
Oui, oui, bah c'est vrai. J'aime beaucoup. Mais en fait, pour être honnête, j'aime énormément tous les personnages. Rarement, je me suis autant attachée à des personnages... Par exemple, vous voyez, dans le Dieu du carnage, je les aimais, bien sûr, mais ils étaient plus réalistes, ils étaient plus... Ma préférée était Véronique, qui était complètement infernale. Mais je les aimais pour leurs excès. Alors que là, je les aime profondément, je me reconnais.
Oui, oui. Et puis en plus, vous les aviez déjà imaginés dans oui. Heureux les heureux, il y a 10 ans, et vous les avez oui. ressuscités ici. J'ai une question sur Polanski, je peux pas échapper à ça. Carnage avait été adapté au cinéma par oui. Roman Polanski en 2011 et il avait reçu, et vous aviez reçu, le César de la meilleure adaptation sans le moindre scandale
mais
en,
oui.
en
mais
2011. Oui. Comment comprenez-vous qu'aujourd'hui, quand il a un César pour J'accuse, il y a une telle polémique?
Je le comprends pas du tout. Pour moi, c'est, alors là, vraiment, on est... définitivement dans le domaine de la folie, là. C'est pareil, il a eu un Oscar, il a été ovationné partout Hollywood, maintenant il ne peut plus mettre les pieds. Il a été ovationné récemment, enfin, je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, c'est un grand ami depuis plus de 30 ans. Je suis trop navrée pour lui, vraiment. Désolée, je ne le vois absolument pas comme il est décrit partout. Et vous avez raison, cette lâcheté qui font que les mêmes gens l'applaudissaient et le rejettent maintenant me désole vraiment.
Oui, oui, c'est très curieux. Bon, c'est l'époque qui revoit le passé différemment. On va écouter votre deuxième choix musical. Alors, je suis très surpris, car vous avez choisi la sonate... à Kreutzer, et non Hammerklavier. C'est-à-dire que vous avez pris la numéro 9 et pas la 29, qui était quand même un des titres de vos premiers livres, qui étaient des fragments autobiographiques publiés en 1997. Enfin, ça reste Ludwig van Beethoven et Martha Argerich au piano. Avec aussi Guidon Kremer au violon qu'on entend. Thank you.
C'était Martha Argerich et Gidon Kremer en 1995, la sonate à Kreutzer de Beethoven. Et on se retrouve avec Yasmina Reza juste après cela.
Demain à 20h, vivez l'émotion du concert de clôture du festival Un été en France avec Gauthier Capuçon, organisé par Société Générale. Pour clore ce festival, le violoncelliste est accompagné des 9 jeunes talents avec lesquels il a partagé la scène durant 3 semaines. Ne manquez pas ce programme éclectique avec des œuvres de Prokofiev, Édith Piaf ou encore Michel Legrand. Une soirée présentée par Gauthier Capuçon lui-même.
Bonjour, c'est Alain Duhaut. Avec Radio Classique et à bord d'un yacht ponant au design raffiné, je vous invite à un festival d'opéra en mer avec des artistes de haut vol. Alexandra Marcelier, la révélation lyrique de l'année aux Victoires de la Musique. Le ténor Valentin Thiel, Héloïse Mas, la nouvelle Carmen. Le baryton américain Alexander York pour La Traviata, Werther, Carmen et un hommage à Maria Callas.
Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
Chef-d'œuvre classique et hommage à Cocteau disparu il y a 60 ans, la 35e édition du Festival de Laon est une invitation au plaisir et à la découverte. En ouverture, concert Mozart et Ligeti avec l'orchestre Les Siècles et François-Xavier Roth dans la magnifique cathédrale illuminée aux chandelles. Puis une dizaine de concerts, des Mariés de la Tour Eiffel par les Frivolités parisiennes au Requiem de Mozart par Julien Chauvin et le concert de la Loge. Le Festival de Laon, c'est du 12 septembre au 8 octobre. Plus d'infos sur festival-laon.org.
Radio Classique présente son nouveau concert Salgavo, Schubert ou le génie romantique. Dans la tradition des Schubertiades, Franck Ferrand vous contera la vie de celui qui fut l'élève de Salieri et composa plus de 1000 œuvres à la grâce infinie. Un récit incarné par les chefs-d'œuvre pour piano à quatre mains de Schubert, interprétés par David Cadouche et Guillaume Bellum. Schubert ou le génie romantique, un concert Radio Classique avec Franck Ferrand, lundi 6 novembre, Salgavo à Paris. Réservation sur salgavo.com.
Bonjour, je m'appelle Anne. J'aimerais que nos enfants puissent vivre dans une nature préservée. Alors, j'ai décidé de faire un legs au Muséum National d'Histoire Naturelle pour soutenir ses explorations scientifiques ou ses actions de préservation des espèces menacées.
En faisant un legs, une donation ou en transmettant votre assurance vie, vous soutenez le Muséum National d'Histoire Naturelle et ses 600 chercheurs mobilisés pour la protection de la biodiversité. Contactez-nous au 01 40 79 38 61 ou rendez-vous sur soutenir.mnhn.fr.
Jusqu'à 20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
J'ai toujours l'immense honneur et le luxe inouï de dialoguer avec Yasmina Reza chez La Pérouse, qui publie Yasmina Reza, donc James Brown mettait des bigoudis, c'est chez Flammarion, c'est une pièce de théâtre qui sera jouée au Théâtre de la Colline à partir du 19 septembre. Il reste des places, alors allez-y, réservez tout de suite. Mais on va parler un peu plus maintenant de vos romans. Vous faites partie des rares auteurs dramatiques qui sont passés du théâtre au roman avec un succès critique et public. Et je ne dis pas ça pour être désagréable avec Florian Zeller, pas du tout, mais c'est vrai que... comment avez-vous fait? Quel est le secret pour arriver, quand on écrit du théâtre, et quelle est la différence avec l'écriture de roman ou de récit?
En fait, je suis allée pas à pas. Je me suis pas tout de suite lancée dans un roman. J'avais écrit une pièce qui s'appelait L'homme du hasard, qui était deux monologues... parallèle, certaines personnes, dont l'éditeur que j'avais, Richard Ducousset à l'époque, me disait mais faut absolument écrire pour la littérature, vous avez le souffle de ça. Enfin, je lui laisse la, je le dis pas comme venant de moi-même, mais et donc après, il m'a dit mais est-ce que vous avez des choses de tiroir et j'avais des textes de tiroir que je ne pensais jamais devoir publier, qui étaient les textes d'Amère Clavier, qui étaient des petites photos sur la mort de mon père, sur mes enfants, au lieu de prendre des photos.
C'était des fragments intimes,
des fragments intimes. Je notais, je écrivais. Et un jour, je lui ai fait lire et il m'a dit je publie ça tout de suite. Et j'ai dit mais non, ça va intéresser personne. C'est trop intime. J'ai beaucoup résisté. Hein. Et finalement, il a gagné. Je l'ai fait.
C'était en 1997.
Voilà. Et ça a été le début de ma prise de conscience que je pouvais faire de la littérature qui ne soit pas du théâtre.
Il y avait ensuite Une désolation en 1999, oui. Un vieil homme qui parle à son fils. Là aussi, c'est un monologue. Hein, c'est, oui. Puis Adam Aberberg, encore un ronchon, oui, en 2003. Oui. Et Dans la luge d'Arthur Schopenhauer en 2005. Mais il me semble que quelque chose s'est débloqué avec Heureux les Heureux,
oui, oui, oui.
En 2013.
Oui.
Jusque-là, d'ailleurs, on avait eu des frictions, oui. Nous deux, parce que oui. J'avais pas, je crois que j'avais dû écrire un truc pas très gentil sur un des livres précédents. Mais avec ces 21 monologues intérieurs, enchevêtrés, Heureux les Heureux, c'était à la fois caustique et avec des irruptions de joie. Vous avez trouvé votre forme à ce moment-là.
Oui, c'est possible. C'est possible qu'il y ait eu à. Évidemment, moi, j'aime les œuvres précédentes.
Mais, pardon.
Mais non, non, mais bien, chacun voit les choses comme il veut. C'est pas. Mais Heureux les Heureux, oui, il y a eu une prise de liberté supérieure. C'est, moi, j'ai toujours été une très grande lectrice de livres et je suis. J'avais honte de moi-même aller sur ce terrain en me disant, mais bon, il y a tellement d'écrivains géniaux.
Oui, mais il y a aussi tellement d'écrivains médiocres.
Oui, c'est ça, c'est le truc de quand je me compare, c'est mieux. Mais voilà, donc je suis allée à tâtons, et puis un jour, j'ai pris la liberté de.
Mais moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est quand même très pessimiste, hein, ce que vous écrivez, c'est souvent très cruel. Mais. C'était ces irruptions de joie. Alors, par exemple, il y avait les Pimms à la poire. Ça, les Pimms à la poire, c'est le bonheur. Ou le Brunello di Montalcino, qui apparaissait, et là, tout d'un coup, c'était la solution à tous les problèmes. Je trouve que ça, c'est très Woody Allenien, en fait.
Oui, oui. Oui, oui. Mais il y avait déjà ça dans mes pièces. Hein.
Oui,
il y avait,
oui,
y avait
oui.
déjà les... Il y a toujours de la joie dans ce que j'écris, je crois.
Oui,
enfin...
oui. Oui, oui, ben de la joie au milieu du, oui. au milieu de la mort, parce que voilà, on a tous ce destin-là. Alors dans James Brown, il y a le champagne Joël Greuze. Alors moi, je croyais que c'était un champagne qui existait. J'ai cherché partout. Et en fait, vous avez inventé cette marque.
Mais j'invente toutes les marques. C'est comme les chaussures. Là, tout à coup, le nom me... Enfin bref, il y a oui. une marque de chaussures oui. qui visiblement porte malheur de livre en livre, où j'ai inventé une marque, Gigi Doll.
Voilà. Ah oui,
voilà,
donc
Gigi Doll.
Gigi Doll n'existe pas.
Gigi Doll a commencé avec Bella Figura, ensuite j'ai mis Gigi Doll je ne sais plus où, et là, Philippe met des Gigi Doll. Et j'adore inventer des marques, j'adore inventer des villes, et je passe un grand temps à
rendre... le nom.
Ah oui, 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 oui. oui.
Ensuite, il y a eu le prix Renaudot en 2016 pour Babylone, où là, ça aurait pu être une pièce de théâtre, au fond, parce que c'est l'histoire d'un voisin du dessus qui étrangle sa femme et puis qui demande de l'aide à ses voisins du dessous. À quel moment choisissez-vous que ce ne sera pas une pièce de théâtre ?
Ça ne pouvait pas être une pièce de théâtre, parce que Babylone, si on le regarde structurellement et pratiquement, c'est l'intrigue est très courte et se passe presque en une nuit. Alors ça pourrait être du théâtre.
Ah oui.
Mais ce qui ne peut pas être du théâtre, c'est que le livre est fabriqué presque qu'en pensée.
Oui. Donc ce serait de la voix off en permanence.
Oui, c'est ça. C'est toutes les diversions presque métaphysique, enfin c'est pas le bon mot, je le trouve pas là,
oui,
mais
oui, oui,
qui relativise la situation, qui la rendent, qui lui donne corps et qui sont pas du théâtre, ou alors une voix off, mais bon.
Oui, mais ce serait long pour une pièce de théâtre.
Et puis, c'est comme le dernier livre, on m'a dit Serge pourrait
Serge.
Être, mais je pense pas du tout.
Serge, il y a un voyage, donc je vois pas comment. Et puis alors,
ils serait... l'ont fait en Allemagne.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, ça a été deux fois dans deux productions différentes que j'ai pas été voir et. Je ne crois pas que c'était si formidable.
D'accord. Oui, parce que Serge, alors donc là, c'est vraiment de la nitroglycérine. C'est une visite du camp d'Auschwitz par une famille et où vous montrez ce qui se passe aujourd'hui quand on visite ce musée et où on est forcément, entre guillemets, déçu parce que il y a des fleurs partout, parce que le ciel est bleu et parce qu'on ne ressent pas l'horreur de ce qui s'y est passé.
C'est ce qui m'a surtout intéressé, c'est... au départ, je voulais faire un livre et j'ai pas réussi. Enfin, j'ai réussi partiellement sur le tourisme de masse.
Oui.
Et puis, en même temps, faire à partir d'une famille. Le thème de la famille m'intéressait. Et je ne voyais pas où les emmener. C'était une série de clichés qui me venaient en tête. Et puis, je me suis dit, mais au fond, c'est une famille juive. Et si jamais, ils allaient à Auschwitz. Et ça a été fulgurant quand j'ai pensé ça, parce que c'est vraiment le lieu même du tourisme de masse. Mmh. Les gens y vont en
tourisme. Le tourisme de la mémoire.
En plus, un tourisme dont on se dit je suis au bon endroit, je suis quelqu'un de bien, je vais honorer les morts tragiques. Donc, c'est toute la perversité de ce tourisme-là et auquel la famille n'échappe pas d'ailleurs elle-même. Donc, c'est ça qui est intéressant.
Vous connaissez la célèbre phrase de Carole Marcus à son mari Walter Matthau, l'acteur Walter Matthau qui râlait pendant une visite d'Auschwitz. Et il râlait parce qu'il faisait froid et tout ça. Et Carole Matthau lui dit... Carole, oui, c'est sa femme. Lui dit, you ruined my trip to Auschwitz.
Tu m'as gâché Auschwitz. Mais c'est vrai. Et c'est exactement mon livre, ça.
Oui, c'était ce ton-là, exactement. Ouais. Alors, nous avons un jeu très célèbre dans cette émission. Devine tes citations. Je vais vous lire des phrases de vous... Qui dans vos 30 années de publication, et vous devez deviner dans quel livre, et n'essayez pas de tricher, je vois que vous essayez de regarder.
Oui, j'essayais.
Dans quel livre avez-vous écrit cette phrase ? Quand tu fais la gueule à 20 ans, c'est sexy, quand tu la fais à 60, c'est chiant.
Je dirais Heureux les heureux.
Babylone, 2016. Mais oui, c'est vrai que faire la gueule à 60 ans, c'est pénible, et c'est pour ça que vous souriez tout le temps ?
Mais c'est peut-être ça. C'est peut-être ça.
Autre phrase de vous. J'aime mieux provoquer des sensations qu'un état de somnolence.
Je me souviens même pas de l'avoir écrite.
C'est dans Comment vous raconter la partie en 2011. Et c'est pas vous qui parlez, c'est Nathalie Oppenheim qui parle, qui est écrivain, qui est l'auteur du Pays des lassitudes.
Ah oui. Voilà, ça, encore je m'en souviens.
Encore un livre qui n'existe pas, un produit qui n'existe pas. Et Oppenheim, d'ailleurs, vous voyez, vous aviez pris ce nom sûrement en référence à Oppenheimer.
Oui.
Voilà. Autre phrase, attention, ça c'est plus facile. Tu n'as pas chaud, mon papounet, avec ce costume ? Si, mais je ne me plains pas à Auschwitz.
Oui, ça c'est facile, c'est Serge.
C'est dans Serge, 2021. Est-ce que vous avez reçu des lettres offusquées après l'apparition de Serge, de Jean-Guy?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Ça n'a fait aucun scandale, ce livre. Aucun.
C'est étonnant, parce que c'était vraiment peut-être un de vos livres les plus risqués.
Oui, très risqué. Et il a été un énorme succès, comme je n'avais jamais eu, en Allemagne.
Ah oui, d'accord. Qu'on puisse enfin...
Parce qu'ils sont dans un tel tabou, qu'on peut comprendre d'ailleurs, une telle contrition.
Respect.
Que quelqu'un qui ose
simplement être réaliste.
Oui, c'est ça.
C'est tout. Oui. Et puis, quand même, je me souviens, au Masque et la Plume, il y avait eu un débat, et on avait dit que c'était tout de même une façon d'honorer la mémoire.
Bien sûr.
Que de ne pas prendre ça trop au sérieux aussi.
Bien sûr.
Et que l'important, c'est d'en parler.
Bien sûr. C'est vrai. Et puis, je pense aussi quand même que le fait que je sois moi-même juive et avec, du côté de ma mère, des gens qui ont été déportés, m'a préservée un peu. On n'ose pas trop. Parce qu'en Allemagne, il y a des journalistes qui m'ont dit, est-ce que vous pensez que si vous aviez été goy et allemande, est-ce que vous auriez pu écrire le livre? Et c'est sûr que non.
Oui. Exact. Troisième choix musical, c'est un Allemand, Franz Schubert. Deuxième mouvement du trio avec piano numéro 3, avec Renaud Capuçon au violon. Son frère Gauthier, notre confrère sur Radio Classique du lundi au vendredi à 17h, au violoncelle, et Frank Braley au piano. Thank you.
C'était donc le deuxième mouvement du trio avec piano numéro 3 et violon et violoncelle de Franz Schubert, qui n'est pas du tout allemand, mais autrichien. Et donc, c'est quand même de la grande musique romantique allemande. J'essaie d'avoir raison quand même. Je suis toujours avec Yasmina Reza, qui a choisi ce morceau parce qu'elle adore Barry Lyndon, je suppose.
Non, pas spécialement. Non, je préfère le Schubert.
Oui, je continue le jeu, devine tes citations. Encore une phrase de vous, vous devez me dire dans quel livre vous avez écrit ceci. On ne peut pas comprendre un couple, même quand on en fait partie.
Elle est bien, la phrase.
Oui, elle est très bien. Oui. Alors, vous pouvez la réutiliser, peut-être.
Je dirais heureux les heureux.
Oui, bravo. Est-ce que vous n'écrivez pas pour comprendre, mais juste pour regarder ?
Ah oui, j'écris sûrement pas pour comprendre. Ça aide pas du tout à la compréhension, l'écriture. Non, pas du tout. Bien sûr, pour regarder. Mmh. On regarde de façon plus approfondie.
Oui. Dernière citation de vous. Quiconque se met en robe de chambre est aspiré vers le néant.
Alors ça, je sais. C'est la Luge d'Arthur Schopenhauer.
Ah, bravo, en 2005. Alors, quiconque se met en robe de chambre est aspiré vers le néant. Mais j'ai un point de désaccord, parce que le Big Lebowski, il est on l'aime. Il n'est pas complètement foutu. Et pourtant, il est en peignoir de bain.
À peignoir de bain, alors, mais pas pareil.
C'est pas pareil que la robe de chambre.
Ah oui, la robe de chambre, c'est... Le peignoir de bain, vous pouvez sortir en peignoir de bain, être au bord de la piscine. Oui. Robe de chambre...
C'est bourgeois.
C'est l'intérieur, la robe de chambre.
Oui, c'est ça. C'est ça, qui nous aspire vers le néant. comment écrivez-vous ? Est-ce que vous êtes très discipliné ? Ou est-ce que vous écrivez uniquement quand vous avez de l'inspiration ?
C'est ni l'un ni l'autre. C'est difficile de répondre parce que je n'écris pas toujours de la même façon. Mais je ne mets pas le fait d'écrire comme une espèce d'impératif. Il y a des écrivains qui disent « Ah, je ne peux pas, j'écris. Moi, si on me propose mieux, j'y vais. »
Oui, mais tout est mieux.
Bah, tout est mieux, souvent. Oui. Si à 3h d'après-midi, quelqu'un me dit « Viens voir tel film avec moi. » L'écriture peut toujours attendre, en fait.
D'accord. Quel est le livre que vous auriez voulu écrire ?
Léo de Hurlevent.
Ah oui, vous êtes lyrique en fait. Vous êtes une...
Pour moi, c'est le chef-d'œuvre absolu. Il n'y a pas eu plus beau livre. Et ça me touche tellement que cette fille si jeune ait écrit ça. C'est pour moi un grand mystère de la littérature.
Vous avez un bureau où vous écrivez partout ?
Partout.
Les ventes augmentent ou baissent ?
J'adore la question. Ah, c'est bien. Alors, si j'étais vraiment d'une prétention folle, je vous dirais les ventes.
Les livres, vous m'avez dit que Serge était votre plus grand succès.
Alors, ça a été mon plus grand succès en Allemagne.
Ah oui, en Allemagne.
C'est pour ça que je dis où.
Oui, oui.
En France, je crois pas.
En France, c'est Babylone, probablement, le prix Renaudot.
Oui, ou Heureux les Heureux, je ne sais pas. Non, le plus grand succès commercial a été L'Aube, le Soir ou la Nuit, à cause de Sarkozy.
C'était quand vous aviez suivi la campagne.
Pour des mauvaises raisons, parce que c'était le...
Mais qu'est-ce que vous aviez aimé cette expérience d'être en reportage comme ça, en immersion?
Oui, j'avais adoré, littéralement. Oui. C'était mon choix. Hein. Oui. Les gens. Après, il y a eu d'autres livres du même.
Oui, Laurent Binet a suivi François Hollande.
C'est des gens qui étaient convoqués par. Moi, j'ai été le voir et je lui ai dit voilà, je voudrais être une petite souris. Il n'a jamais demandé à avoir rien. Il était en plus très ressemblant à mes personnages habituels. Et puis, j'ai vu la France comme jamais j'aurais la chance de la voir. J'ai vu les usines, j'ai vu des endroits où on ne peut pas rentrer normalement. Non, c'était formidable.
Et ça vous a jamais tenté de recommencer, de faire du nouveau journalisme comme ça ?
C'était pas du journalisme. Je pense que le livre était vraiment très, très littéraire. C'était mon regard là-dessus. Très peu politique, très, très axé sur le détail.
Non, mais c'est pas une injure. Nouveau journalisme, c'est l'expression de Tom Wolfe pour désigner des.
Justement,
gens qui font de la littérature à partir de reportages.
Alors, ça, j'aurais voulu le refaire. Mais j'ai pas trouvé le
sujet.
Oui, j'ai pas trouvé le sujet. Mais si demain il apparaissait, je le referais volontiers.
Et le cinéma, alors, vous avez, vous,
cinéma,
où en êtes-vous ?
C'est très violent, le cinéma. Moi, j'ai fait un film qui a ses qualités et aussi ses défauts. Mais dans un, je l'aime beaucoup, ce film.
Il s'appelle Chicas. Ouais.
Et quand il est sorti, il n'a pas marché le premier jour et ça a été catastrophique. Oui. Enfin, catastrophique, ça a été...
Bah, ça se passe en très peu de temps.
Le sort de beaucoup.
C'est beaucoup de temps de travail pour finalement assez peu d'existence.
Et je me suis dit, cette violence-là, moi, je n'ai plus envie de m'y confronter. Donc, c'est pas mon métier, je peux être heureuse ailleurs.
Oui, c'est tout à fait juste. Pourquoi s'infliger ça ?
Ben oui.
Alors, je vous ai demandé le livre que vous auriez aimé écrire. Quel est le pire livre que vous ayez jamais lu ?
Oh, il y en a plein. Ah oui. Alors, maintenant, je m'efforçais d'aller jusqu'au bout. Par une espèce de, je sais pas, de respect de la littérature. Mmh. Alors maintenant, je peux même plus répondre à ça parce que, au bout de 3 pages, je peux abandonner ou 10.
Mais je crois qu'il faut.
Oui, c'est ça, oui, voilà.
Quelle est votre odeur préférée ?
Oh là là, vous me prenez de.
Oui, c'est vrai que c'est des questions difficiles.
De cours. Peut-être, je serais pas trop fausse en disant certaines odeurs de nature et de torrents, de montagne.
Oui. Voilà. La chose la plus bizarre que vous ayez jamais mangée.
Là aussi, je suis incapable de répondre.
C'est des questions que j'ai trouvées dans la librairie Shakespeare and Company, où il y a comme ça un questionnaire assez absurde. Et donc, je trouve ça intéressant.
Ouais, non, je n'ai pas souvenance de...
Dans un voyage bizarre, vous avez mangé du crocodile, je ne sais pas, ou du kangourou.
Mais j'ai dû manger des choses bizarres, mais je m'en souviens pas.
Non, d'accord. Le dernier choix musical de l'émission, c'est le jazz. Et vous avez choisi la version de Summertime par Janis Joplin, 1968. Janis Joplin, Summertime. Pourquoi ce choix, Yasmina Reza ?
Bah déjà, cette musique était dans Chicas.
Oui.
Et parce que j'adore Janis Joplin.
C'est par fascination pour le destin tragique ou
non, non.
Enfin, la voix.
La voix sublime, oui. L'artiste exceptionnel qu'elle était.
Hum. Je voudrais finir cette émission avec la question de Jacques Chancel. Et Dieu dans tout ça.
Ben, j'en parle tout le temps.
Oui.
Puisque finalement je m'intéresse à la mort dans tout ce que j'ai écrit, je parle aussi forcément de métaphysique. Dieu, ben j'en parle sans...
Vous en parlez, mais sans y croire ?
Oui, c'est ça, en gros. C'est comme quand je ne vais pas voir des voyantes parce que j'ai peur d'y aller.
Oui.
Et j'y crois pas, mais j'ai peur d'y aller.
Oui. Mais peut-être qu'à force de parler de Dieu... Il finit par arriver.
Les Juifs
oui,
pensent
les Juifs
ça.
Disent ça. Oui,
c'est très juif ça. Oui, oui. C'est qu'on appelle, on passe son temps à le quémander pour qu'il apparaisse enfin.
Oui, d'ailleurs, mais je vous rassure, les chrétiens, les catholiques, quand ils répètent, les moines, quand ils répètent Jésus-Christ, Jésus-Christ toute la journée, ils peuvent pas penser à autre chose. Donc finalement, il y a que lui dans leur vie. C'est ça, à force de psalmodier.
Oui, on le fait advenir, mais. Oui, c'est une grande question.
Bon, alors, j'arrête de vous torturer. Merci infiniment d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Yasmina Reza, donc, le livre « James Brown mettait des bigoudis » est en librairie depuis aujourd'hui. Et la pièce de théâtre débute le 19 septembre au Théâtre National de la Colline. Et avec quel acteur
Ah oui, je serais ravie de les citer. Les femmes en premier, Christelle Tual, Josiane Stoléru, Michel Esco, André Marcon, Alexandre Steiger et Joachim Latarger, qui n'est pas un acteur, mais qui est un musicien, qui est sur scène.
D'accord. Et il reste des places, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci infiniment, merci à toute l'équipe, le producteur Philippe Gault, Matteo Catizone-Berardi à la réalisation, sans oublier Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Dans un instant, sur Radio Classique, le grand concert du samedi. Ce soir, l'orchestre du Capitole de Toulouse, dans le concerto numéro 5 de Beethoven et la symphonie numéro 5 de Mahler, la musique de la mort à Venise de Visconti, à la Philharmonie de Paris. Concert présenté par Laure Maison. Bon samedi soir à tous et à samedi prochain.